Je rappelle, mais est-ce nécessaire que Pierre Assouline est écrivain, romancier, biographe, essayiste, journaliste et critique ? Par ailleurs, Pierre Assouline a créé et anime un site et un blog d'actualité littéraire, La République des livres, qui constitue une manière de communauté littéraire. En écho de cette expérience, Pierre Assouline a intitulé sa conférence « La conversation numérique ou la névrose du commentaire infini ». Merci beaucoup, Pierre.
Bonjour à tous. C'est le seul endroit où il faut venir faire une conférence avec une pince à linge, m'a-t-on dit. Maintenant, je comprends pourquoi. Pas facile, hein. Dominique m'avait fait un drôle de cadeau de parler après Patrick Boucheron et Jean-Claude Milner. C'est mettre la barre très haut. Ça va être difficile. Bon, d'autant plus qu'en ligne, le collectif, on est en plein dedans et comment. Mais avant de poursuivre, même de commencer, en vertu du principe de précaution, permettez-moi de demander s'il y a dans la salle des commentateurs de la République des livres. Je veux dire des lecteurs qui seraient directement concernés par le titre de ma communication, La névrose du commentaire infini. Je vois. Ça ne m'étonne pas de vous. Courage, Fillon. Ou alors ils sont tous déjà à l'hôpital. Alors commençons par le début, au cas où l'on me demanderait d'où vous parlez. Et vous me pardonnerez si je fais preuve d'immodestie en parlant surtout de ma propre expérience du blog et de la vie numérique, puisque c'est ce que les organisateurs du Banquet du Livre m'ont demandé en priorité, pas seulement comme observateur, mais comme acteur et témoin de la toile. Je remercie d'ailleurs Dominique et Colette qui m'ont proposé cette communication, parce que dans quelques mois, ça va faire exactement 10 ans que je tiens ce blog. Et 10 ans, c'est un bilan. Et le bilan, finalement, je le dresse un peu ici avec quelques mois d'avance. D'autant plus que c'est un blog, je le rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, que je tiens depuis 10 ans tous les jours, y compris les vacances, y compris en ce moment. Samedi, dimanche et fête inclus, jour et nuit, à flux tendu. Oui, puisque je pars du principe que quand un écrivain meurt comme Solzhenitsyn, s'il meurt dimanche d'août, ce qui est arrivé, on ne va pas attendre 24 heures après que les journalistes soient rentrés, comme ça s'est passé au Figaro ou au Monde, pour faire un article. Il faut rendre hommage tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ça qui différencie notamment le journalisme en ligne du journalisme traditionnel sur papier. J'ai donc créé ce blog en 2004, à la demande du Monde.fr. À l'époque, ça ne se faisait pas. Il y avait très très peu de blogs, en tout cas il y en avait très peu, sur le site du Monde.fr, qui est un site pionnier dans le journalisme en ligne. Je suis sûr que parmi vous, il y a pas mal de lecteurs de ce site. Il y avait donc tout à inventer pour chacun à sa guise, que ce soit éventuellement un modèle économique et un modèle journalistique. Dès le début, ce blog a pris ses marques et n'en a jamais dévié. Un blog professionnel, celui d'un journaliste de formation et de métier, un blog d'actualité littéraire à partir des livres, les nouveautés comme les rééditions, dans deux directions, critique et information. Autrement dit, critiquer les textes et les auteurs, informer sur la vie littéraire et l'activité de l'édition. Et dès le début, le choix était fait de laisser libre cours à l'interactivité, autrement dit, de laisser ouvert en temps réel le robinet à commentaires. Je précise en temps réel, puisque comme vous le savez, un certain nombre de commentaires sur la toile se font après modération. Vous êtes dans une file d'attente et selon le bon vouloir du modérateur, votre commentaire est publié peu après ou pas publié d'ailleurs. Là, il n'y a pas de ce genre de filtre. C'est-à-dire, à la seconde où je vous parle, il y a quelqu'un sur mon blog qui est en train de m'insulter. Alors, si l'insulte est trop forte, on va reparler après de la violence, mais si c'est trop fort, il me sera toujours à temps tout à l'heure d'abord de trouver une connexion à Internet à la grâce, ce qui ne va pas de soi, et ensuite de mettre à la corbeille ce commentaire s'il est trop agressif. La modération, à l'époque, quand j'étais au Monde.fr, était à la charge du Monde.fr. Très vite, au bout de quelques semaines, les commentaires ont afflué, donc il y a 10 ans. Il m'a fallu des années pour faire avouer publiquement à la direction du Monde.fr, du Monde en ligne, lors d'un séminaire réunissant les blogueurs invités du journal, que la modération était entièrement confiée à une agence indépendante du journal et que celle-ci l'avait délocalisé au Maroc. Ce qui a expliqué soudainement certains tropismes régulièrement dénoncés par des internautes comme une censure partisane, notamment pour des questions politiques et notamment pour tout ce qui touchait à l'islam et aux pays arabes. Jusque-là, j'avais beau expliquer que je n'y étais pour rien, j'incarnais, aux yeux des internautes, les ciseaux d'Anastasie, autrement dit la censure. Alors, qui sont les lecteurs d'un blog de ce type, disons un blog littéraire? Il y a des écrivains, je me permets d'en citer quelques-uns, parce qu'ils m'ont fait l'amitié de me dire régulièrement qu'ils le lisaient. Yves Ravet, je profite parce qu'il est là, donc... Yves Ravet, Tonino Benacquista, Daniel Pennac, Tahar Benjelloun, Patrick Boucheron, Pascal Horry, Daniel Mendelssohn, Jean-Noël Jeannet et beaucoup d'autres, des historiens, des écrivains, des éditeurs, des libraires, des attachés de presse de l'édition, bien sûr, des journalistes, des critiques, et puis aussi, surtout, beaucoup de profs du secondaire et aussi des universitaires, et surtout, bien sûr, évidemment, de simples lecteurs, amateurs de littérature et de débats d'idées, mais pas uniquement des Français, des Suisses, des Belges, des Québécois, des Africains, des expatriés en mal de culture française. En toute immodestie, je dois vous dire que quand j'écris un article ou un billet sur ce blog, je ne m'adresse pas aux Français, je m'adresse très précisément à 220 millions de personnes. Ils ne sont pas tous là, hein, hélas. Mais 220 millions de personnes, c'est-à-dire la francophonie. Car quand vous écrivez pour un journal papier, par exemple Le Monde, ce qui m'est arrivé pendant 10 ans, vous savez à peu près à qui vous vous adressez, plus ou moins. Il vous arrive même parfois de les rencontrer. Quand vous écrivez en ligne, vous ne savez pas du tout à qui vous parlez et vous pouvez rencontrer des lecteurs en Corée, ça m'est arrivé, au Japon, au Brésil et aussi à Boulogne-Billancourt. Donc c'est tous azimuts et il faut faire la part des choses. La francophonie est immense, est en plein développement, contrairement à ce qu'on croit. Et de plus en plus, les blogs de langue française s'adressent à un public aussi large que ça, et même de plus en plus large. C'est une notion que j'ai intégrée, parce que par exemple, si je parle de ce que je ferai, j'espère bientôt, de la Grasse, même si je dis que c'est dans la région de Narbonne, je préciserai où est Narbonne. Ce que je ne ferai pas dans un journal, mon Dieu, dans un journal français, parce que je me dirais quand même que les lecteurs du Nouvel Observateur, par exemple, où je travaillais, sont des gens qui savent à peu près où est Narbonne, en principe. Alors que là, non. Donc je préciserai le département, la région. Ou alors, plus simplement, et c'est ça l'avantage d'écrire en ligne pour un journaliste, au lieu d'alourdir l'écriture du texte, je ferai un lien hypertexte sous Narbonne qui renverra non seulement au département, à la région, mais même à l'abbaye de la Grasse, si toutefois elle a un site, mais j'en suis sûr. Il y a 7 ans environ, à la suite d'un différend avec Le Monde des Livres, j'ai quitté lemonde.fr comme hébergeur pour me faire héberger ailleurs, chez moi tout simplement. Dans le même temps, mon blog est devenu, sous la même bannière, La République des Livres, un site. Quelle est la différence? C'est-à-dire que, outre mon article, on trouve sur la page d'accueil des brèves que j'écris directement sur des réseaux sociaux et qui ont trait à la vie littéraire ou aux nouveautés de l'édition, mais aussi de nouveaux espaces. Un espace offert aux critiques que j'appelle SDF, c'est-à-dire des critiques qui n'ont plus de tribune, mais qui s'intéressent toujours à la littérature et qui écrivent toujours sur la littérature. Et puis d'autre part, un espace offert aux traducteurs, parce que c'est une activité que je suis intensément depuis longtemps et que je suis toujours désolé de voir que à la radio, même à France Culture, à la télévision, j'en parle même pas, et dans la presse écrite, les traducteurs n'ont pas de lieu pour s'exprimer. Moi, je tiens que quand un livre, un roman étranger paraît en France en traduction française, l'un des mieux placés pour en parler, c'est le traducteur. C'est rarement le critique qui n'a pas lu l'original et qui, même souvent, ne l'a jamais lu et qui se permet de dire « ce livre est très bien traduit ». Mais c'est le traducteur qui connaît la langue de l'intérieur et pour cause, et très souvent qui a démonté l'intrigue comme jamais un critique ne saura le faire. Et voilà pourquoi cet espace que j'offre au traducteur, par exemple hier j'ai mis en ligne un article d'un Argentin qui s'appelle Ariel, j'ai oublié le nom, mais enfin c'est pas grave, et qui est le traducteur de François Bon en espagnol, et qui a traduit un livre de lui qui s'appelle Mécanique, qui est un livre d'ailleurs paru chez Verdier, si je ne m'abuse. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'il parle de tous les problèmes qu'il a rencontrés dans le langage parfois technique de François Bon sur la mécanique, le garage, etc., pour rendre ça en espagnol. Et ça, c'est vraiment les coulisses et l'atelier. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, il y a cette rubrique depuis un an et demi qui fonctionne et que moi, je trouve passionnante, je peux le dire, puisque je ne l'écris pas. Je n'en suis pas l'auteur. Voilà. Alors, les commentaires, qui est le sujet, qui est notre sujet. Il y en a environ, aujourd'hui, en moyenne, 300 par jour. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la vie numérique, je peux vous dire que 300 par jour, c'est beaucoup. C'est considéré comme beaucoup. Je les lis tous, tout le temps. Il n'y a pas d'heure. Je les lis d'abord parce que ça m'intéresse. Ça m'enrichit, même lorsque ça dérape vers le grand délire. Et puis, je suis juridiquement responsable. C'est-à-dire que, bon, le droit est un peu particulier appliqué à l'Internet, mais c'est assez simple, même si beaucoup considèrent que c'est une zone de non-droit. En cas de problème, si un avocat vous écrit, enfin m'écrit, en me disant « mon client estime que dans un des commentaires, il est diffamé », dès lors que je l'efface dans les 24 heures, je suis considéré par un juge comme étant de bonne foi. Mais si je persiste à le laisser alors qu'un avocat m'a dit « il est diffamé » et il poursuivra si jamais, eh bien, à ce moment-là, il y a un procès exactement comme dans la vie normale, c'est-à-dire comme sur la presse papier, ce qui est la moindre des choses. Donc je suis juridiquement responsable et désormais seul modérateur. Je dois éliminer tout ce qui est raciste, antisémite, pédophilie militante, dénonciation calomnieuse. Je vous cite tout ce qu'il y a sur mon blog régulièrement et que j'enlève. Appel au meurtre. Promesses d'éviscération en place publique et autres considérations littéraires. Donc environ 300 par jour, en moyenne, avec des pointes qui font grimper haut la courbe en cas de polémique, toujours sur les mêmes, Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Heidegger, l'affaire Dreyfus, les Juifs, la Seconde Guerre mondiale, l'islam, l'identité nationale, et d'une manière générale, les polémiques intellectuelles du moment sur, par exemple, le livre noir de la psychanalyse, la réédition de Mein Kampf. Alors, il y en a qu'on peut anticiper. Hein. C'est comme les Jeux olympiques ou les championnats du monde de football. Dans à peu près un an, je vous donne rendez-vous, vous verrez une intense polémique sur la réédition de Mein Kampf, puisque les droits seront dans le domaine public. Et qu'il y a une course contre la montre entre différents éditeurs pour rééditer Mein Kampf, et surtout pour le rééditer avec une préface et des notes d'historiens, afin que nul n'en ignore. Bon, il y aura une polémique là-dessus. Donc ça, il y a des choses qu'on peut anticiper et prévoir. Le succès des Bienveillantes, le roman de Jonathan Little, les aspects positifs de la colonisation française, le débat sur le plagiat, psychique ou pas. Et chose étrange, ça monte, alors ça grimpe terriblement chaque fois qu'il est question de traduction. Mais il est souvent question de traduction, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me touche de près. Et chaque fois, ça grimpe, puisque, pour le dire à la manière de Jean-Luc Godard, tout lecteur de La République des livres a deux métiers. Le sien est expert dans une langue étrangère. Donc, un blog de ce type, il faut le prendre comme une chambre d'écho sans équivalent, une machine à rumeurs. Une machine à rumeurs, c'est-à-dire l'atelier du buzz, c'est-à-dire là où se fabrique le bouche-à-oreille, qui, comme on le sait, est le garant du succès, c'est le seul garant du succès d'un livre, d'un film, d'une pièce, en tout cas, là, il s'agit de livres. C'est d'abord là, c'est par le bouche-à-oreille que se fait la notoriété et la diffusion d'un livre. Bien entendu, dans ce bouche-à-oreille, il faut inclure la presse écrite, les blogs, un peu tout. Mais très souvent, on en retrouve la quintessence dans les commentaires du blog. Et je suis toujours étonné de voir que les éditeurs, en tout cas en France, ce n'est pas le cas aux États-Unis, en Angleterre, n'ont toujours pas compris que s'ils voulaient tester l'opinion des lecteurs en général, et en particulier sur tel ou tel livre, il fallait qu'ils fassent une sorte de veille sur les blogs littéraires pour voir ce que disent les lecteurs. Car ça, je peux vous l'assurer, c'est un sondage d'opinion en direct, sans filtre. Sans filtre, à part les horreurs que j'enlève. Mais sur l'état d'esprit, je dirais pas de tous les lecteurs, mais d'un grand nombre de lecteurs par rapport à des livres, par rapport à des romanciers, à des essayistes, à des intellectuels, ou même par rapport à l'air du temps, à l'esprit du temps. Eh bien ça, les éditeurs ne le font pas. Et si j'étais éditeur, je commencerais par engager de stagiaires, puisque c'est toujours cela qu'on exploite, des jeunes qui, eux, savent faire marcher les ordinateurs, contrairement à d'autres, et qui sauraient très rapidement étudier les commentaires des blogs et aussi, dans le même temps, les commentaires des réseaux sociaux. Car aujourd'hui, de plus en plus, la notoriété d'un livre se fait par les réseaux sociaux, par les commentaires qu'on y trouve. Pas seulement les commentaires parapublicitaires envoyés par certaines maisons d'édition ou par des agences de marketing qui savent manipuler la chose, mais des commentaires de simples internautes. Je ne parle pas des commentaires qui sont sur Amazon et qui sont souvent téléguidés, organisés, agencés, payés par ceux qui y sont intéressés. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire qu'il y a des commentaires que j'ai vus sur ce blog qu'on ne pouvait voir à l'époque nulle part ailleurs. Par exemple, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, il y a eu une thèse qui est sortie et dont la quintessence est sortie dans la revue d'histoire moderne et contemporaine sur l'affaire Dreyfus et sur un aspect de l'affaire Dreyfus inconnu, la dimension homosexuelle. Chez Dreyfus, hein, dans l'entourage militaire. Eh bien, ça m'a intéressé parce que je me suis dit quand même c'est assez original. J'ai repris ça. Donc la revue est une revue assez confidentielle quand même, hein, faite pour spécialistes. J'en ai fait la synthèse. Il y a eu environ 700 ou 800, peut-être 1000 commentaires de gens qui étaient extrêmement intéressés et surtout des spécialistes de l'affaire Dreyfus. Je pense qu'à Philippe Auriol, mais il y en a eu d'autres aussi, comme Michel Drouin et d'autres, qui sont des éminents spécialistes de l'affaire, qui sont universitaires, qui sont venus pour dire « cette thèse est farfelue ». Mais ils l'ont fait en avançant des arguments, en publiant dans les commentaires des archives, des extraits d'archives. Ça a été une véritable bataille de spécialistes, mais pour le meilleur, pas pour le pire. Eh bien, ce qui m'a étonné, c'est de voir que nulle part ailleurs, ce débat avait lieu. Parce qu'il n'y avait pas la place. Parce que vous pouvez demander à un journal de trouver la place pour tout ça. Ça s'est passé là. De même, une autre histoire m'est arrivée, plus malheureuse, celle-ci. Je ne vais pas citer le nom, mais un documentariste que j'aimais beaucoup, j'ai appris qu'il s'était suicidé. J'ai donc fait tout de suite, et je l'ai appris par ses amis. J'ai fait tout de suite un article pour rendre hommage et pour donner la raison de sa mort. Mais dans le même temps, le reste de la presse disait « il est mort » sans dire de quoi. Et moi, je fais partie des journalistes qui trouvent que ce n'est pas normal, il faut toujours donner la raison de la mort. Et quand il s'agit d'un suicide, si possible, donner, hélas, les moyens du suicide, parce que ça change tout. Eh bien, que François de Grossouvre se soit suicidé à l'Élysée n'est pas anodin. C'est le lieu à son importance. Eh bien, à la suite de ça, il y a eu tout un débat où j'étais copieusement insulté, pas par les internautes, qui pour une fois m'ont défendu, mais par soit la famille, soit des journalistes amis de la famille, que je ne connaissais pas, qui m'ont insulté parce que j'avais donné la raison de la mort de ce garçon. Alors que cette raison était fondamentale pour comprendre où il en était intellectuellement, artistiquement, etc. Et il n'y a que là que ça a eu lieu. Eh bien, le nombre d'internautes qui sont intervenus pour me remercier en disant « il n'y a qu'ici qu'on sait pourquoi il est mort. Ça fait 3 jours qu'on cherche, on n'arrive pas à le savoir. » Ça sert aussi à ça, un blog. C'est un espace de liberté où peuvent passer des choses qui ne passeront nulle part ailleurs, surtout s'agissant de littérature ou de débat d'idées. Encore faut-il rappeler qu'à l'origine, conversation s'entendait comme étant le goût des autres, leur fréquentation, leur commerce, et pas nécessairement comme une prise de parole. Or, entrer dans la conversation en ligne, c'est accepter tacitement de se mettre en société. Toute velléité de monologue est balayée par les veilleurs du lieu. Parce qu'il y a des veilleurs, hein, dans les commentaires. Il y a des gens qui sont là, j'ai l'impression qu'ils dorment avec leur ordinateur, pire que moi, et que jour et nuit, ils sont là. Et quand ça va dans un sens qui ne leur plaît pas, il bastonne. Ce sont des sentinelles invisibles, si assidues dans les commentaires qu'elles s'estiment même co-auteurs du blog. C'est toujours cette idée que ce qui est collectif, au lieu d'être perçu comme la propriété de tous, est considéré comme n'appartenant à personne. La prise à partie et l'injonction permanente y sont telles qu'elles forcent à l'échange. Nul n'y soliloque longtemps. Quoi qu'il en soit, conversatio, disputatio, colloque, peu importe, il s'agit avant tout d'être ensemble. Un sentiment de la convivialité que l'on croit à tort ou à raison hérité du banquet philosophique. Et s'il y a bien un endroit où on peut le comprendre, c'est bien ici, à l'abbaye de la Grâce. Montaigne, celui des essais et celui notamment du chapitre de l'art de conférer, Montaigne pourrait être le saint patron des commentateurs d'un blog et même des internautes. Si seulement ceux-ci n'oubliaient pas que la quête de la vérité pour elle-même est la finalité de la dispute. Même au XVIIIe, on en convenait, derrière le rideau de fumée mondain du badinage. Alors un conseil, juste un conseil à l'essayiste, essayiste téméraire, hein, qui voudra écrire un jour une critique de la raison blogosphérique ou un traité de conversation à l'usage des temps nouveaux, il lui faudra partir, non pas du salon de Madame Dudéfant, mais du pile-poule, cet art si juif, car si talmudique, du commentaire infini, pour arriver jusqu'aux recherches les plus avancées d'aujourd'hui sur l'intelligence collective. Dès lors que son animateur y active la fonction commentaire, tout blog ouvre de facto un forum de discussion appelé à susciter dans le meilleur des cas un dialogue platonicien et dans le pire, le trou noir de la pensée en action lorsqu'elle est gouvernée par les instincts les plus bas. Mais l'agora étant redevenue la place du marché, les sophistes y côtoient les disciples de Socrate, les citoyens et les esclaves. Il faut voir le blog comme un vigoureux banquet et considérer qu'il y a un orateur en tout internaute. Il participe d'une manière de révolution. Il n'y a pas eu rupture lorsqu'on est passé de l'incunable à l'imprimé, alors qu'il y en a une lorsqu'on passe du livre à l'écran. Avec Gutenberg, on a glissé du papier au papier. Avec le numérique, on passe du papier à l'immatériel. C'est un peuple étrange qui forme cette nébuleuse présentée aujourd'hui comme la nef des fous. Je parle des commentateurs. Il en est aussi courageux qu'inconscient pour signer leur vrai patronyme au risque de le voir traîner dans la boue. Pour la plupart, ils signent d'un pseudonyme. Ils font parfois preuve d'une inventivité étonnante. Sapience malivole, la fée clochette, Clopine Trouillefou, bon. Le fiancé de la belle Hortense. Il y en a un, celui-là, je suis sûr qu'il était prof de lycée il y a quelques années. Le sous-commandant d'Arcos. Moi, j'aime bien ça. On pourrait faire un florilège. Ils ont une imagination incroyable. Parfois, c'est interminable. Hein. Certains en changent de temps en temps, tout en conservant la même adresse IP, ce qui me permet de les identifier, à moins que leur style même ne les ait déjà désignés. Encore qu'il ne faille pas tomber dans la facilité qui fait du pseudonyme un anonyme. Ils sont plus proches, en fait, des hétéronymes chers au poète portugais de l'intranquillité, Fernando Pessoa. Ils portent un ou plusieurs noms destinés à révéler différentes facettes de leur personnalité. Pour la petite histoire, le tout premier commentaire, posté à la suite du second billet, donc il y a pratiquement 10 ans, qui était consacré au démêlé de Françoise Sagan avec le fisc, eh bien, ce commentaire, le premier, était signé anonyme, tout simplement. Car certains, à force de poster des commentaires tous les jours, toute l'année, se créent une nouvelle identité numérique, parfois une notoriété, voire un public. Je vous donne un cas qui n'existe plus, hélas, aujourd'hui, mais qui a existé quelques années sur mon blog, La République des Livres, le cas de Montaigne à cheval. C'était son pseudo, Montaigne à cheval, que les habitués appelaient Mac, M-A-C, Montaigne à cheval, et qui était à la ville le fils d'un grand germaniste bien connu des éditions Verdier, et qui était lui-même professeur de lettres dans le secondaire. Il était l'auteur de commentaires sur la littérature et sur l'histoire parce qu'il était prof d'histoire aussi, je crois, aussi brillant et pénétrant qu'agressif et insultant. Tant et si bien que son entourage m'a demandé un jour, expressément, de le bannir de mon blog, de lui en interdire l'accès, comme on interdit l'entrée des casinos à des joueurs, car les échanges qu'il provoquait étaient devenus trop toxiques pour sa santé mentale. La fin est plus tragique, mais ça je n'en parle pas. La récurrence des commentateurs fait qu'au bout d'un certain temps, ils finissent par se connaître. Certains, pour de vrai, dans la vraie vie, car ils me tiennent au courant. Il en est qui tiennent à nous communiquer leur date de vacances, afin qu'on ne s'inquiète pas de leur absence du blog. Moi, j'ai envie de leur dire, restez là-bas, restez. Il y en a d'autres qui précisent que là où ils seront, ils n'auront pas accès à l'Internet, et qu'il ne faudra donc pas leur en vouloir de leur absence de réaction quand on en attendrait une réaction. Il en est même qui font leurs adieux définitifs au blog, tant le lieu leur est devenu insupportable. Mais contrairement à Jacques Brel à l'Olympia, ils font leurs adieux régulièrement. Si ce n'est une addiction, qu'est-ce donc ? Un mariage a été célébré ainsi, dont j'ai été à distance le témoin virtuel. Des amitiés se sont nouées, de solides inimitiés aussi, des duels ont été provoqués. Une agonie a même été ponctuée par ses commentaires sur le blog. J'ai tout vu, tout lu dans cet espace de commentaires, et même un, je l'appelle Elle parce que son pseudonyme est connu, régulièrement houspillé, sinon insulté, par quelques-uns qui faisaient masse contre lui à cause de ses opinions, car en ligne, même sans se voir de visu, on s'entend pour bastonner collectivement un individu. Et puis un jour, ce Elle a disparu. Aussitôt, ils se sont inquiétés pour lui. Et lorsqu'ils ont appris qu'il était convalescent à l'hôpital à la suite d'une tumeur au cerveau, le blog n'avait rien à y voir, enfin j'espère, ils se sont groupés pour que l'un d'eux lui apporte non pas des fleurs ou des oranges, mais un ordinateur, afin qu'il puisse reprendre la conversation comme avant, quoique plus doucement au début, tout de même. Je suis peut-être trop optimiste, mais... Vache, c'est dur, hein ? Mais je vois de la tendresse sous ce fumier. Au risque de paraître naïf, je parlerai aussi d'une certaine générosité dans le partage des connaissances et même dans le partage des tâches. Imaginez-vous que depuis le début, j'ai des correcteurs bénévoles. Bon, il y a la correction automatique, hein, mais souvent je suis pressé quand j'écris parce que, bon, l'actualité. Et il m'arrive de faire des fautes de syntaxe, d'orthographe. Pas tellement. On m'a beaucoup chambré au début là-dessus, puis beaucoup moins. Et puis un jour, Pierre Deligny, qui était un grand simenonien, j'ai fait la biographie de Simenon, donc on se connaissait bien, et qui était correcteur retraité de l'Encyclopédia Universalis. Il avait passé 30 ans de sa vie à la corriger. Il m'a dit, tu sais, je lis ton blog, il y a des fautes. Hein. Je dis, oui, je suis désolé. Et il m'a dit, je te corrige et prends le bien. Et il m'envoyait régulièrement ses corrections. Et puis il a disparu, et l'un d'entre eux, un lecteur, m'a dit « J'ai l'impression que votre correcteur a disparu. » Je dis « Mais comment vous le savez ?» Il me dit « Bah ça se voit. » Je dis « Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Écoutez, je suis correcteur à la retraite. » Je dis « Allez, qu'est-ce que vous voulez ?» Il me dit « Si vous voulez, je vous corrige. Mais vous avez un problème avec l'accent circonflexe, qui est vrai. Vous ne savez jamais où le mettre. Dutile. » Bon. Et alors... Ça fait 7-8 ans que Pierre nous a quittés, Pierre Deligny, et donc PMB, je ne donnerai pas son nom, mais je lui rends hommage, l'a remplacé. Et à chaque billet, donc tous les 2-3 jours, il y a toujours quelque chose. Parfois, c'est un vrai problème, parfois une répétition, un barbarisme. Bon, nous sommes humains, après tout. Comme disait Albert Camus, il n'y a que ceux qui n'écrivent pas qui ne font pas de fautes. Et donc... à chaque fois, je le remercie. Il me dit, pas besoin de tartiner pour me remercier. Hein. Je dis, non, mais merci. Et c'est tout ça par courriel, c'est privé. Je ne parle pas de ceux qui sont assez cuistres pour me corriger en public, en me disant, espèce de crétin, vous avez oublié. Bon, je leur dis, merci pour la correction fraternelle. On voit que vous lisez les évangiles, c'est gentil. Et lui, ce qui est extraordinaire avec PMB, c'est qu'à chaque billet, il me trouve quelque chose. Mais... il peut arriver que je ne fasse aucune faute. Et il m'écrit et il me dit « Aujourd'hui, aucune faute. » Ça me fait très plaisir. Non, il y a vraiment une générosité. Il y a une vraie générosité parce qu'il y a un partage, il y a des gens qui donnent, je ne sais pas moi, un souvenir sur l'affaire Heidegger. Sur l'affaire Heidegger, quand il y a eu des polémiques à la suite du livre d'Emmanuel Faye, et que la polémique a repris, je vous annonce qu'elle va reprendre dans pas longtemps, parce qu'on va voir arriver le cahier noir d'Heidegger, où est révélé son antisémitisme par lui-même, ce qu'il avait caché pendant des années dans ses écrits. Eh bien, ça va reprendre. Bon, il y a 6-7 ans, ou 5-6 ans, l'affaire Heidegger a déchaîné des passions. Mais ce qui était extraordinaire, c'est pour ça que je parle de générosité, c'est que des germanistes sont venus se mêler à la dispute. Ils ont, pour certains, pour prouver qu'ils avaient raison, face à leurs contradicteurs, retraduit des pages entières d'Heidegger qui ne sont pas traduites en français encore, puisque sur les 110 volumes de ses œuvres complètes, il n'y en a que 72, je crois, qui sont en français, qui ont été traduites. Et donc, ils ont été rechercher ça, le retraduire pour le mettre en ligne. Vous imaginez le travail que ça suppose, et en même temps, ce n'est pas que pour convaincre, c'est pour partager. Donc moi, je reste très, très optimiste là-dessus. Même s'il y aura toujours des gens, non seulement pour cracher, mais toujours des gens, vous savez, pas seulement sur un blog, mais dans les projections privées auxquelles nous sommes conviés, dans les premières de théâtre où nous sommes invités, quand le film s'interrompt parce qu'il est un peu cassé, ou quand dans la pièce de théâtre, le rideau tombe pour une raison inopinée, les premiers à crier, remboursés, sont ceux qui ont été invités. C'est toujours pareil. Eh bien, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Le forum devient très vite une arène. Je vous livre une expérience qui prouve que quand même, on va revenir sur la violence, mais cette violence, elle peut être positive. Il y a quelques années, il y avait un internaute, Yves, avec qui lit les commentaires et qui est en bon état, manifestement, donc doit peut-être s'en souvenir, qui signait Diagonale. Alors, il est là, non? Non. Bon. Alors, ce Diagonale, qui a écrit pendant un an et demi à chacun de mes billets, et à chaque fois il venait, et son commentaire était très bien écrit, très pertinent, se rapportant au sujet du jour, et grâce à une culture classique remarquable et une culture de l'actualité littéraire tout aussi étonnante, faisait une critique de mon billet. Pour me signifier 9 fois sur 10 que j'étais complètement à côté de la plaque. Et ça se terminait par mon pauvre Assouline, vous n'êtes vraiment pas fait pour ça, changer de métier, etc. Bref, c'était humiliant, très humiliant, mais je le laissais parce que c'était très intéressant. J'étais souvent pas d'accord avec lui, il n'avait pas toujours raison, contrairement à ce qu'il croyait. Et très souvent, les autres lecteurs, commentateurs, prenaient ma défense. Moi, je ne demandais rien. En disant à ce Diagonale, enfin, vous êtes vraiment dégueulasse. Et puis d'abord, vous n'avez pas raison, enfin, sur Little, sur tout ça. Et donc, bref, il y avait dialogue. Mais ce Diagonale, donc tous les 2-3 jours, c'était une séance de flagellation pour moi, qui était parfois difficile à supporter, mais qui était enrichissante. Ça durait un an et demi. Puis un jour, il fait ses adieux. Mais il suit là comme Jacques Brel, pour de bon. Et on ne le revoit plus. Bah, je me dis, bon. Alors, on se voit là débarrassé. Un ou deux ans passent et je vais un jour je vais dans un colloque dans les anciens locaux de l'ENA, rue de l'Université, un colloque sur la corruption en politique. Je vais là-bas pour le compte du Monde, il faut faire une chronique, un papier. Pas pour les livres, pour le Monde. Et j'y vais, je suis le colloque sur la corruption en politique, ça m'intéressait. Les aspects philosophiques, etc. et autres. Et puis il y a une interruption, la pause. Et je me mets à lire mon blog parce qu'il y avait des commentaires. Et moi, dès que j'ai un moment, je regarde les commentaires. Là-bas, il y avait une connexion. Et donc, je lis et puis je vois tout d'un coup une main qui vient sur mon écran, comme ça. Ah, je lève la tête, je vois un inconnu, 40 ans, cheveux très très courts, crâne rasé, chemise blanche, ouverte, manches retroussées, tout sourire. Et je lui dis, monsieur. Il me dit, monsieur Assouline, je dis oui, il me dit, Diagonale. Ah, bon, alors je serre la main quand même, et peut-être bêtement, en tout cas naturellement, je dis, ah, c'est vous? Il me dit oui, et puis il s'assoit à côté de moi, et il me dit, Ça me manque, la République des livres. On s'est bien amusé quand même. Oui, je dis, oui, enfin, c'est une façon de voir les choses. Si vous voulez me dire, oui, elle me dit, j'étais un peu fort, hein, parfois, mais c'est sympa, hein. Je dis, oui, c'est sympa. C'était sympa, oui. Et puis, on bavarde d'un livre qui venait de paraître, on échange, comme si de rien n'était, voilà. Et puis, je me disais, mais est-ce que je vais lui demander qui c'est, qui il est, parce que quand même, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Quel genre de personne ça peut être? Et puis, le colloque reprend. Il me dit, excusez-moi, il faut que j'y aille. Je dis, pas de problème. Au revoir. Et je le vois se diriger vers sa place. Et là, il retrousse ses manches, il met sa cravate et il met sa veste. Et là, tout de suite, c'était un fonctionnaire. Et il va à la tribune. Il monte à la tribune pour parler. Il rejoint les autres. Et avant de parler, il se présente, c'est obligatoire. Il donne son nom, que j'ai oublié, parce que je m'en fous, en fait. J'ai oublié son nom, mais il donne sa qualité, expert de la lutte contre la corruption au ministère de l'Intérieur. Et je me suis dit, ce type, en fait, il se défoule, quoi. Toute la journée, il est avec des fonctionnaires comme ça, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, et le soir, boum, sur le blog. Ça, c'est un type de psychologie qu'on retrouve assez régulièrement sur ce blog. Et moi, je dois dire que, au fond, ça m'enchante. Même si c'est un peu dur. On peut dire que cette violence à l'œuvre sur Internet, en fait, elle n'est jamais que le reflet de la société. Simplement, elle est démultipliée. Ce qui est vrai, l'écran désinhibe. Peut-être que vous-même, vous en avez fait l'expérience. L'écran désinhibe. Il libère les pulsions les plus meurtrières. L'agrégation de toutes ces solitudes, parce qu'il y a quand même des solitudes derrière l'écran, c'est une poudrière. La cruauté, la haine, la colère... Cela peut aller très loin, sous couvert de pseudonymes et à l'abri d'une fausse adresse. Je vous laisse imaginer ce que Internet aurait donné sous l'occupation. Non pas « je suis partout », contrairement à ce qu'on dit, mais cette nuance n'échappera pas à mon ami Pascal Horry, au pilori, plutôt que « je suis partout ». Pourquoi ? Mais parce que les articles publiés dans « au pilori », qui était un torchon antisémite, étaient des lettres anonymes signées. En quelque sorte, des lettres anonymes signées. Henri Coston était un des responsables, il est mort très tard. Je cite un nom parce que ça me plaît de le citer tout de même, parce que j'ai lu toute la collection et il m'en est resté quelque chose. Des articles de dénonciation permanents ne donnaient pas seulement le nom des juifs qu'il fallait arrêter, elles donnaient également l'adresse de la crèche au cas où on aurait oublié les enfants. Ces articles étaient signés du véritable nom de leur auteur, Robert Julien Courtine. On peut imaginer que ce Robert Julien Courtine, il lui est arrivé le pire à la Libération. Eh bien, à la Libération, il est arrivé d'être repêché par Hubert Beuve-Méry et de faire une très belle carrière au Monde pendant 40 ans comme chroniqueur gastronomique sous le pseudonyme, cette fois-ci, de La Reynière. Parce que quelques personnes se souvenaient tout de même du nom de Robert Julien Courtine. Eh bien, le concentré de haine qu'on peut trouver dans les commentaires, c'est rien à côté d'au pilori et d'autres feuilles qui étaient des journaux papier. On dit Internet, c'est une poubelle, c'est le rendez-vous mondial des passions basses. C'est Alain Finkielkraut qui le dit, il n'a pas tort. Il a juste tort de n'y voir que cela, alors que c'est cela aussi. Le populisme sur mon blog, il va bon train, ouvert chez les uns, larvé chez les intellectuels, les deux se rejoignant dans la mise en cause permanente des médias, comme si c'était un bloc homogène. Écoutez cette citation extraite de ce Vice impuni, la lecture. Valérie Larbeau, il parle de l'Ulysse de Joyce. Et pourtant, on croirait qu'il parle du labyrinthe des commentaires de la République des livres. Je cite. Le lecteur tombe au milieu d'une conversation qui lui paraît incohérente entre des personnages qu'il ne distingue pas, dans un lieu qui n'est ni nommé ni décrit, et c'est par cette conversation qu'il doit apprendre peu à peu où il est et qui sont les interlocuteurs. Alors parfois, moi, je préfère le prendre avec humour, au troisième degré, comme l'a fait il y a quelques jours un lecteur qui répondait à un autre et qui lui disait « N'étant pas psy de profession, mais vétérinaire, je puis vous assurer que vous présentez tous les symptômes de la rage. Moi, ça m'a plu. Ah oui, non, mais on rigole quand même sur les commentaires. Alors, c'est vraiment la nef des fous, oui, avec parfois n'importe quoi, du délire, des hors-sujets, évidemment. Il y a même quelqu'un qui a écrit récemment « On a maintenant presque l'impression de déranger quand on parle de littérature. » Mais enfin, c'est comme dans la vraie vie, au bistrot ou chez les gens. Il y a parfois des fusées baudelairiennes, des saillies dignes des salons du grand siècle, d'époustouflants témoignages d'érudition, une fois liquidés les règlements de compte personnels. Et puis, il y a aussi le fameux point Godwin qui se vérifie tous les jours. Tout le monde sait ce que c'est ? Non. Le point Godwin, c'est du nom d'un, je crois que c'est un chercheur ou un informaticien, je ne sais plus, new-yorkais, qui a remarqué, à force d'analyser les commentaires sur l'ensemble des blogs, que dans la conversation en ligne, pas seulement aux États-Unis, mais partout, dans la conversation en ligne, à partir du moment aux environs d'une centaine de commentaires, où la conversation devient un peu violente, excessive, trop dense, quel que soit le sujet, tout le monde se met à parler d'Hitler et des Juifs. Et une fois qu'ils se sont engueulés là-dessus, comme si on pouvait s'engueuler là-dessus, mais enfin bon, au bout de 50 commentaires là-dessus, ça redescend, la tension redescend et on revient au sujet. Eh bien, le point Godwin, chez moi, c'est tout le temps. Mais même si je parle, si je fais demain une description de l'abbaye de la Grâce, ça y sera au bout de 100, 150 commentaires. Comment ? On ne sait pas trop. Ça, c'est, il faut en tenir compte. Bon, sauf qu'ici, en ligne, ce ne sont pas nécessairement des êtres incarnés qui s'expriment, qui sont en cause, ce sont des représentations sociales. Et comme j'ai évoqué tout récemment ma venue à la Grâce, ça a déchaîné les gens. Vous imaginez, j'ai osé parler de la névrose du commentaire. Non, mais pour qui se prend-il ? Et pour qui nous prend-il ? C'est lui le malade, etc., etc. Il faut préciser que nombre d'intervenants sont persuadés qu'ils sont le sel de la toile en général, et de ce blog en particulier. Ils n'en démordent pas, bien que je leur ai dit 100 fois, la majorité des lecteurs lisent le billet, ne lisent pas les commentaires. Soit ils ne savent pas que ça existe, qu'il y a des commentaires, soit ils ne savent pas qu'il faut appuyer sur le bouton commentaire, soit ils en ont lu une fois une dizaine et ils se sont sauvés en criant. Je regarde juste pour voir si je suis dans les temps. Ça va. Au fond, la plupart des intervenants sur un blog comme celui-ci sont des personnages de théâtre. Et ils ont endossé un rôle, ce qui ne fait qu'augmenter leur potentiel de théâtralité. Certains ne viennent là dans ce forum que pour faire du bruit. Mais ne dit-on pas au dehors, dans la vraie vie, que beaucoup ne parlent vraiment ? Ils ne parlent pas vraiment, ils font juste du bruit avec la bouche. D'ailleurs, à ce sujet, l'un des commentateurs, sachant que je venais ici, m'a dit « Vous devriez leur conseiller un livre que je n'ai pas lu. » Il m'a dit « Il y a un livre pour qu'ils comprennent, votre public, qu'est-ce qu'on fait entre nous ?» Un livre de Harold Searle qui s'intitule « L'effort pour rendre l'autre fou ». Et c'est vrai qu'il y a de ça, mais je ne l'ai pas lu. Catherine, peut-être ? Oui. Ça va être intéressant, dans les années à venir, de voir en quoi les nouvelles technologies ont modifié l'élaboration du moi, le moi individuel et le moi social. Comment elles ont suscité le blog comme un lieu de conversation à mi-chemin entre la mondanité et la vulgarité, encore que l'une ne soit pas exclusive de l'autre. Un lieu où l'on viendrait, ni pour tuer l'autre, ni pour l'encenser, mais pour défendre des idées, convaincre, apprendre. Un lieu qui ferait sien ce qu'écrivait Diderot à Sophie Volant. La douceur de notre commerce me ravit. Le jour où on dira ça dans les commentaires, il y en a qui le disent, mais combien s'y tiennent ? Alors on va trouver bizarre que je parle de la névrose du commentaire. C'est peut-être parce que, outre le côté addictif et compulsif de bon nombre qui ne peuvent pas s'empêcher de venir commenter, le trait le plus courant en est la parano. Non pas la paranoïa, comme une pathologie lourde, mais la simple parano commune à tellement de gens. le simple délire d'interprétation que nous connaissons tous, un sentiment obsidional, le spectre du complot, de la censure qui rôde. Le fait est que beaucoup sont obsédés, hantés par une idée fixe et qui n'en démordent pas. Tout y ramène. C'est leur grille de lecture, leur vision du monde, leur absolu. Ben, par exemple, savez-vous qu'après ce que je vais vous lire, le point Godwin est arrivé à y rester pendant au moins 100 commentaires, ce qui est énorme. Alors que, franchement, si vous écoutez ça, bon, j'avais fait un billet consacré à Sava. Sava, point d'interrogation. Sava, c'est le titre d'un petit livre savoureux et sans prétention du dramaturge Jean-Claude Grimbert. Vous savez, bon, atelier, tout ça. Jean-Claude Grimbert a fait cette petite chose qui est délicieuse sur les mille et une manières de ne pas s'en sortir lorsqu'on demande « ça va ?» à quelqu'un à qui on veut simplement dire « bonjour ». Au lieu de dire « bonjour », en français, on dit « ça va ?» Ça part bien. Et puis, pour une raison inexpliquée, vers le 85e commentaire de ce billet que j'ai fait sur Grimbert, une internaute éprouve la nécessité d'expliquer, je ne sais pas pourquoi, qu'elle n'est pas protestante, mais catholique. 10 commentaires plus loin, l'athée de service assure que l'on se méprend sur le sens de l'athéisme. Et vers le 100e, immanquablement, ça a glissé sur le Proche-Orient, les Juifs, les Arabes, la Shoah. Jusqu'au 278e commentaire, alors qu'au début, on se demandait juste comment dire « ça va ». Ça fait partie des choses qui sont pour moi des mystères. Moi, j'interviens très peu, très très peu, parce que d'abord, c'est une question de temps. Je passe 4 heures par jour à m'occuper de ce blog. Si en plus, je devais répondre aux injonctions, ça n'en finirait pas. Et puis, à part ça, c'est une question de principe. Je n'interviens pas parce que les gens qui me posent des questions sur le mode de l'injonction le font pour moi de manière extravagante. Ils ont un masque, un faux nez et une fausse adresse. Il me demande à moi, qui est ma tête sur mon blog, qui est mon nom et mon adresse personnelle en ligne, de me justifier sur ce que j'écris et sur ce que je suis. C'est extravagant. C'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, j'ai vu ça sur slate.fr récemment, de plus en plus de sites suppriment la fonction commentaire parce qu'ils estiment que les commentaires salissent le billet. À quoi je réponds, on n'est pas obligé de lire les commentaires. Voilà. Moi, je trouve que c'est partie de la liberté d'expression. Ça serait dommage de s'en passer. Il se pourrait, et là, je suis dans la dernière ligne droite, ça va, je suis dans les temps. Il se pourrait que l'Internet renoue avec ce que Alain Montandon, maître d'œuvre du dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre du Moyen-Âge à nos jours, appelle l'art perdu de la conversation. Un temps où l'on n'attendait aucun résultat efficace ni retour sur investissement de la compagnie des autres. La compagnie des autres pour elle-même. Madame de Staël tenait qu'en France, plus qu'ailleurs, et dans toutes les classes de la société, les gens, les Français, étaient pris d'un irrésistible besoin de causer. Mais je crois que ça n'a pas changé. Mais causer, pas seulement pour le plaisir de communiquer, mais pour le plaisir d'user de la voix, comme, disait-elle, la voix comme d'un instrument dont on aime à jouer, et qui ranime les esprits. Le forum d'un blog comme La République des Livres se situe modestement à équidistance de Mallarmé et de la télévision, ou du moins de ce qu'elle est devenue. Deux extrêmes. D'un côté, l'aboli bibelot d'inanité sonore, par lequel le poète évoquait, à travers la conversation, l'au-delà des mots. De l'autre, le talk show permanent, où l'animateur zappe l'invité au bout de 2 phrases afin de prendre de vitesse le téléspectateur dont il craint l'ennui, la lassitude et surtout l'impatience, ce fléau encouragé par l'invention de la télécommande. Sur un tel lieu d'expression, comme le blog, qui est pour moi le lieu le plus libre qui soit, tout peut arriver à n'importe quel moment, car on est en direct et sans filet, comme actuellement. Le goût des autres, c'est vrai, le goût des autres, il existe, mais il côtoie en permanence le dégoût de son prochain. Si je suivais les courriels que je reçois, l'exclusion et le bannissement seraient permanents. C'est ce que me réclament les uns et les autres. Tuez-le. Puisque moi, internaute, je ne peux pas le faire, celui-là qui n'arrête pas de me houspiller, de me taper dessus, de m'énerver, de tuez-le, bannissez-le. Évidemment, je ne le fais pas. Alors que moi, j'aimerais tant inscrire au fronton de ce site ce mot de Balthazar Gracian dans son Criticon. Tout bon entendeur doit y trouver salut et s'y retrouver non sali. Poster un commentaire sous le biais d'un blog, c'est l'assurance de parler sans être interrompu. Un luxe de nos jours. Merci au Banquet du Livre de m'avoir accordé ce privilège aujourd'hui, sans commentaire.